Tous, la colère des profs plus que jamais en ce jeudi alors que doit avoir lieu le vote du décret programme contenant toute une série de mesures d'économie dans l'enseignement. Il était considéré comme mort, disparu depuis 6 jours. Un Sherpa a été retrouvé en vie sur l'Everest. Bienvenue à tous. Le vote sur les mesures d'économie dans l'enseignement tant redouté par les profs a donc lieu aujourd'hui. Une accélération du tempo qui galvanise les enseignants. Beaucoup sont en grève. Des dizaines d'actions et de rassemblements sont organisés dans les écoles. Sophie Couteau est enseignante à La Louvière. Elle a participé à une grande chaîne humaine ce matin avec d'autres écoles de la région.
Ce qu'on veut représenter, c'est qu'ici, il y a un mouvement qui est inédit. C'est-à-dire qu'on est tous ensemble, tout réseau confondu. Les parents, les élèves, le primaire, le secondaire, le supérieur. On est tous ensemble, aujourd'hui et encore longtemps, tant que le retrait du décret programme ne sera pas officialisé. On se bat tous ensemble. Ce qu'on espère, c'est tout simplement le retrait du décret programme 2, qui est un décret programme qui va fragiliser énormément l'enseignement.
Des propos recueillis par Nina Zanata. Le vote du décret programme avec les mesures d'économie touchant l'enseignement a donc lieu aujourd'hui au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les débats en séance plénière vont commencer à 14h cet après-midi, avant le vote attendu dans la soirée et une entrée en vigueur des mesures dès la rentrée scolaire prochaine. En bref, l'eau du robinet est à nouveau potable dans l'entité de Nivelles, dans le Brabant wallon. Par contre, les résultats d'analyse montrent que l'eau reste toujours impropre à la consommation suite aux orages ce week-end à Ham-sur-Sambre, mais aussi à Velaine-sur-Sambre et à Auvelais. Les distributions d'eau potable se poursuivent donc. Et puis après les plaidoiries de la défense, hier, le procès de Paolo Falzone marque une pause pour 4 jours aux assises de Mons. Il reprend mardi et ce sera avec les répliques des parties civiles aux arguments de la défense. Hier, l'avocat du principal accusé a contesté toute intention de tuer. Il plaide l'homicide involontaire pour l'ensemble des victimes. Je vous propose à présent de prendre la direction de la Suède. Le pays connaît une augmentation préoccupante de l'implication des jeunes filles dans la criminalité organisée et la violence des gangs. D'après le Conseil suédois de prévention du crime, les jeunes filles sont parfois utilisées comme un outil stratégique car elles passent plus facilement inaperçues. Notre correspondante en Suède, Ottilia Ferré, a passé un après-midi avec l'association Lebi qui travaille auprès de jeunes filles afin de prévenir l'exclusion et la dérive vers la délinquance. Reportage.
Ce jour-là, Lebi a invité une vingtaine de filles âgées de 9 à 12 ans à la pizzeria du quartier où vit notamment Maria, 11 ans.
Ça va être trop bon.
On est à Södertälje, à 1 heure au sud de Stockholm, ville où la délinquance juvénile a fortement augmenté.
Juste là dehors, une personne est morte dans une fusillade.
Juste derrière Maria, on trouve Sandra, 22 ans, une encadrante sollicitée de tous les côtés par les jeunes filles qui veulent la prendre dans les bras.
Aujourd'hui, elles peuvent être recrutées dans un centre de loisirs, dans la rue ou à l'école. De plus en plus de filles prennent un mauvais chemin. Elles sont souvent utilisées comme des proies. Mais ici, on est devenues un peu comme leurs grandes sœurs. Elles savent qu'on ne va pas les juger. Au contraire, on les écoute, on leur donne des conseils.
Dans la ville de Göteborg, Anna Biström coordonne le programme intitulé « Un angle mort » qui cherche à mieux comprendre le rôle des jeunes filles dans les réseaux criminels.
Pendant longtemps, ces filles sont restées sous les radars. Certaines sont exploitées sexuellement, utilisées comme une marchandise dans des règlements de compte entre gangs. Elles peuvent servir de monnaie d'échange. Leur corps peut même devenir une source de revenus pour la criminalité organisée.
Environ 10 000 jeunes filles sont considérées aujourd'hui comme liées au réseau criminel en Suède.
Israël et le Liban se sont mis d'accord pour un nouveau cessez-le-feu, à condition que le Hezbollah pro-iranien cesse ses tirs vers Israël. De nouvelles négociations entre les deux pays devraient démarrer d'ici 2 semaines. Alors, un cessez-le-feu était déjà entré en vigueur depuis la mi-avril, mais il n'est pas respecté. Cette nouvelle trêve le sera-t-elle? C'est mal parti. Un média d'État libanais rapporte des frappes israéliennes ce matin, juste après l'annonce du nouveau cessez-le-feu. Côté iranien, présent Téhéran affirme qu'aucune avancée concrète n'a été obtenue dans les discussions avec les États-Unis pour mettre fin aux tensions au Moyen-Orient. L'Iran qui met en garde contre une reprise à grande échelle du conflit. Dans le Golfe, les attaques se multiplient. Le Koweït dit avoir été visé hier par 13 missiles balistiques et 17 drones iraniens. De nouvelles attaques qui ont fait remonter les cours du pétrole. Miracle sur l'Everest. Un Sherpa porté disparu depuis près d'une semaine a été retrouvé vivant alors que la saison d'ascension est terminée et que toutes les expéditions ont quitté le camp de base. Les recherches étaient terminées et l'alpiniste considéré comme mort, David Bertrand.
Oui, son nom, Hilary Dawa Sherpa, un guide népalais de 30 ans. Le 29 mai, il avait atteint le toit du monde à 8848 mètres d'altitude avec un client britannique. Lors de la longue et fatigante descente vers la vallée, ils se sont perdus de vue à cause d'une météo capricieuse et d'une visibilité très limitée. Ils étaient encore alors à plus de 7500 mètres d'altitude. Les deux alpinistes ne se sont jamais retrouvés. Depuis lors, Dawa Sherpa était porté disparu. D'importantes opérations de recherche étaient en cours depuis plusieurs jours. Le problème, c'est que les hélicoptères ne peuvent pas toujours voler à des altitudes pareilles, d'autant plus quand le temps se gâte. À l'Everest, la saison d'ascension est officiellement terminée, les moussons arrivent et le camp de base s'est vidé ces derniers jours. Tout le monde le croyait donc définitivement perdu et mort, mais il a finalement été aperçu par une équipe chargée de nettoyer la montagne en train de ramper à bout de force, non loin du camp de base, à 5500 mètres d'altitude. Épuisé, il souffre de très nombreuses gelures.
À Roland-Garros, en tennis, place aux demi-finales féminines à partir de 15h, l'Ukrainienne Marta Kostyuk contre la Russe Mira Andreeva et puis une autre Russe, Diana Schneider contre la Polonaise Maja Gzwalinska. C'est à suivre sur les médias de la RTBF. En cyclisme, quatrième et avant-dernière étape au Tour de Wallonie, 166 km accidentés entre Dizon et Eupen. Hier, c'est l'Allemand Kim Alexander Heidoux qui s'est imposé au sprint et qui a d'ailleurs endossé le maillot jaune de leader. Voilà qui marque la fin de ces infos. Que vous soyez, merci de nous écouter.
Retrouvez toute l'info sur le site et l'app RTBF Actu.
Élodie de Célis pour la suite de Matin Première.
Sur Nerf, merci à vous. Pour ces infos, on vous retrouve à 9h30.
Avec grand plaisir.
Eh bien, merci, à tout à l'heure. Bienvenue à vous qui nous rejoignez dans Matin Première. On va faire le point sur vos consignes de circulation. Apparemment, il y a différents chantiers qui vous retardent, Antoine Binamé.
Oui, Elodie, quelques soucis du côté de l'E19. Nîmes, vous perdez 10 minutes direction Mons, 10 minutes aussi à Capelonne, direction le Luxembourg, chantier habituel. Du côté des axes qui mènent à Bruxelles, c'est assez stable. Vous perdez 15-20 minutes en moyenne pour arriver à Bruxelles. Et puis sur le ring de la capitale, on nous signale